Voilà, bonjour à tous, soyez tous les bienvenus dans la maison du Seigneur. Comme j'ai dit, on est content de pouvoir revenir après un petit temps de repos. C'était vraiment un temps magnifique d'être pouvoir se reposer, pouvoir décrocher. Ça fait toujours du bien. On n'a pas fait forcément de grosses activités, simplement de rester à la maison, de pouvoir profiter d'être ensemble, de faire quelques activités, mais c'est toujours bon de pouvoir sortir un peu de notre routine quotidienne. Et c'est vrai que durant l'été, c'est l'occasion justement que plusieurs prennent des vacances, pour quelques-uns de nos membres qui sont encore en vacances aujourd'hui. Et on veut encore qu'ils puissent continuer de pouvoir goûter aux joies de ce temps. Pendant ce temps de vacances, j'ai aussi l'occasion de lire plusieurs livres. Hein. J'ai toujours un peu beaucoup de livres à rattraper, comme on dit. Et surtout un livre que notre évêque Cliff Fletcher nous avait encouragé, c'est devenir un leader émotionnellement sain. Et on va en parler un petit peu aujourd'hui, un petit peu, puis aussi dans ce prochain temps. Même si on n'est pas un leader, mais les principes qu'il donne sont aussi bons pour chacun de nous. Donc, comme on a dit, c'est la rentrée. Hein? Donc, avec la rentrée, beaucoup de choses qui reviennent. Il faut refaire toutes les cartables des enfants, acheter des petites choses pour l'école. C'est aussi l'occasion aussi pour nous de reprendre certaines activités, comme on a dit, les cellules qu'on a fait durant l'été, qu'on a mis sur pause, les activités d'église, certaines activités aussi de loisirs et de sport, entre autres. Mais cette année, j'aimerais qu'on puisse réfléchir qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, cette année, dans cette reprise ou dans cette rentrée. Est-ce que nous allons, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, vivre la même chose que les autres années? Est-ce que nous allons simplement reprendre nos activités habituelles et repartir simplement comme les autres fois? Je crois que c'est toujours l'occasion lorsque, après l'été, avant de reprendre la course effrénée de notre vie, de se poser, puis de s'asseoir, puis de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire dans cette nouvelle étape, dans cette rentrée, dans cette reprise? Qu'est-ce que tu veux me dire? Est-ce que je dois comme continuer ou est-ce que je dois peut-être réfléchir à faire les choses autrement? Donc justement, dans ce temps de repos, il y a un mot qui m'est revenu dans le prochain diapositive, un mot qui m'est revenu régulièrement, c'est redécouvrir, redécouvrir. Donc regardons un peu qu'est-ce que ça veut dire, la définition de redécouvrir, pour nous c'est tout ça, c'est découvrir de nouveau ce que d'autres avaient découvert ou considérer avec des yeux neufs. Ou il y avait une autre définition que j'aime beaucoup aussi, c'est découvrir de nouveau ce qu'on avait oublié ou découvrir d'une façon différente. Le mot redécouvrir veut dire justement qu'il y a quelque chose qu'on doit faire de nouveau, ou peut-être quelque chose qu'on avait oublié, qu'on avait fait dans le passé, qu'on doit reprendre. Par exemple aussi, si par exemple dans votre jeunesse, vous avez fait du camping, vous avez aimé ça, peut-être après le mariage, les enfants, vous avez peut-être oublié cela. Et peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, vous dites, ben là, je vais commencer de nouveau à refaire le camping, puis vous redécouvrez les joies du camping. C'est quelque chose que peut-être vous avez déjà goûté, que vous avez déjà l'idée, mais le fait que vous vous mettez à faire cette activité, ça vous rappelle des bons souvenirs, ça vous donne aussi une autre perspective. Ce n'est pas forcément que nous devons absolument répéter ce que nous avons fait dans le passé, mais de le revoir avec d'autres yeux, d'autres lunettes, comme par exemple l'image sur l'écran, avec une loupe, avec des lunettes différentes, pour dire, est-ce que j'ai besoin de redécouvrir quelque chose dans ma vie? Alors justement, dans ces prochaines semaines, durant cet automne, on va faire cette série sur le mot redécouvrir, et on va voir plusieurs aspects, comme redécouvrir notre relation avec Jésus, redécouvrir notre relation aussi les uns avec les autres, avec l'Église, avec notre prochain, avec la communauté. Donc, on va voir justement l'importance de revoir peut-être ce que nous avons appris, ce que nous avons connu, mais de le voir d'une façon peut-être différente. C'est vrai que peut-être on est avec le Seigneur depuis de nombreuses années, peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et c'est vrai que peut-être on peut vivre une certaine routine, une certaine façon de vivre les choses. Et voilà pourquoi que justement on a besoin, dans certains temps de l'année, et surtout c'est des bons moments, comme au début de l'année aussi, de dire, Seigneur, avant que je m'engage dans toutes sortes de choses, je veux savoir si ce que je fais est réellement fidèle de toi. Est-ce que je fais les choses par routine, par quotidien ou est-ce que j'ai vraiment goûté quelque chose de nouveau avec toi? Alors ce matin, nous allons redécouvrir Jésus, redécouvrir notre relation avec Jésus. Quelque chose peut-être de nouveau, quelque chose peut-être de différent, quelque chose peut-être qu'on a oublié ou qu'on a peut-être mis de côté ou que peut-être avec le temps, les choses sont faites et on oublie de le faire, on oublie d'être vraiment présent. Et j'aimerais qu'on ouvre notre Bible dans Jean chapitre 3, versets 1 à 10. Jean chapitre 3, versets 1 à 10. On va lire l'histoire de Nicodème. Vous connaissez cette histoire, Nicodème qui est un docteur de la loi qui vient vers Jésus pour demander quelque chose de spécial. Donc Jean chapitre 3, versets 1 à 10. Alors je vais le lire dans la version Bible Semeur. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Jésus répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître de nouveau, naître une fois vieux ?» s'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître de nouveau, c'est-à-dire l'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Prochain diable, verset 6. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il faut tout renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit, comment cela peut-il se réaliser? Verset 10, toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela, répondit Jésus. Donc Nicodème était un homme qui était instruit, respecté dans la société juive. Il préfère devenir la nuit parce que peut-être qu'il ne veut pas encore s'associer réellement à Jésus. Il n'est pas encore prêt à reconnaître que Jésus est le Messie. Mais il a des questions. Il est intéressé à voir qui est réellement Jésus-Christ. Alors il vient de nuit. Donc il vient vers Jésus parce qu'il a une certaine façon de perception de Jésus. Il dit justement qu'il vient parce qu'il sait qu'il apporte des enseignements qui viennent de Dieu. Il voit qu'il a fait différents miracles. Et il peut comprendre que c'est seulement une personne qui vient de Dieu, qui peut faire de telles choses. Mais Nicodème n'arrive pas à ce moment-là de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu fait chair. Il le considère comme un docteur envoyé par Dieu. Voilà pourquoi il vient de nuit, comme on a dit, parce qu'il ne veut pas être vu avec Jésus, parce qu'il ne veut pas, lui, le docteur de la loi, qu'on lui met en jugement et qu'on lui dise, mais ça y est, tu reconnais Jésus comme le Messie. Encore aujourd'hui, il y a des personnes et des chrétiens aussi, qui peut-être reconnaissent Jésus comme un docteur de la loi, comme quelqu'un qui fait des bonnes choses, quelqu'un qui a des bonnes valeurs. Des fois, on parle des fois avec des gens dans l'église, et puis pour eux, Jésus, c'est un grand homme. Mais ils n'ont pas encore forcément reconnu comme Jésus-Christ, le Seigneur et leur Sauveur. Au verset 2, justement, Nicodème parle de la preuve que Jésus est envoyé par Dieu à travers les enseignements, à travers les miracles. Et on voit au verset 3 que Jésus ne va pas directement répondre à la question de Nicodème. Il va dire au verset 3 par le mot renaître, ou bien naître de nouveau. Comme le mot redécouvrir, que nous venons d'aborder, le mot renaître vient du mot naître, mais comme de nouveau. Voilà pourquoi que Nicodème ne comprend pas le sens de ce mot de renaître, renaître d'en haut. Lui qui a reçu tous les enseignements pour être un docteur de la loi, il ne comprend pas ce que Jésus est en train de lui dire. Dans d'autres traductions que je préfère, surtout dans la traduction Second, dans le verset 3, il est dit « en vérité ». Dans la traduction Semeur, il est dit « vraiment, je te l'assure ». Mais dans la traduction, la véritable traduction « en vérité », c'est comme Jésus va dire « mais écoutez-moi bien ». En vérité, ce que je vais te dire, c'est la vérité. Il faut que tu l'écoutes, il faut que tu la comprennes. Prochain diable. Donc, on voit que Nicodème a besoin de l'aide de nouveau afin de comprendre le royaume de Dieu. Lui, il reste du côté humain. du côté terre à terre. Et Jésus va nous dire, mais il faut que tu voyes d'une façon différente. Il faut que tu voyes comme cette image sur l'écran avec des lunettes différentes. Voilà pourquoi que Jésus va dire au verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Ou peut-il une seconde fois pour entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus savait exactement le nœud que Nicodème avait, le problème que Nicodème avait. Lui qui connaissait toute la loi, lorsque Jésus va lui dire, il faut qu'il renaisse, il comprend du côté humain. Il dit, mais c'est pas possible que je puisse renaître, moi qui ai déjà un certain âge, de pouvoir revenir dans le ventre de ma mère. Jésus veut dire autre chose. Jésus veut dire, mais si tu veux renaître vraiment dans le royaume de Dieu, il faut que tu comprennes avec les yeux de ton cœur, avec les yeux de la foi. Et il dit au verset 5, il faut qu'il naître d'eau et d'esprit. Donc dans cette phrase, on a une préfiguration de ce que Jésus a fait lors du baptême. Rappelez-vous, lorsque Jésus est venu vers Jean le Baptiste, Jean le Baptiste était dans le désert pour justement baptiser, pour permettre que tous ceux qui voulaient changer de vie puissent à travers les eaux être purifiés. Il y avait toujours ce thème de l'eau qui était une façon de purification, de laver nos fautes. Et Jésus vient aussi vers Jean, même si lui n'était pas, il n'avait pas le péché, mais c'est comme pour commencer son ministère. Et on sait que lorsque Jean l'a baptisé, il y a eu aussi le Saint-Esprit qui est venu sur Jésus à travers une colombe. Donc, il faut naître d'eau et d'esprit. Il a reçu le Saint-Esprit. Dieu, Jésus veut dire à ce moment-là, il ne faut pas simplement naître à travers le baptême. On sait que ce n'est pas le baptême qui nous sauve. Le baptême est un symbole, une façon de démontrer devant les hommes ce que Dieu est en train de faire dans nous. C'est-à-dire que nous reconnaissons nos péchés et à travers l'eau du baptême, nous préfigurons comme nous plongeons pour pouvoir être lavé de nos péchés, notre ancienne vie, pour venir saint, renouvelé devant le Seigneur. Mais nous savons que c'est le Saint-Esprit. Nous savons que c'est lorsque nous repentons à travers avec le Seigneur que nous allons vraiment vivre une nouvelle vie. Et à travers cette repentance, le Saint-Esprit vient dans nous et qui nous confirme que nous sommes réellement une nouvelle personne, un enfant de Dieu qui est racheté. Prochain diable. Donc Jésus l'explique dans les versets suivants. Comment que pour que Nicodème puisse comprendre que ça veut dire renaître, la différence entre la naissance naturelle de la vie naturelle et de la vie avec Jésus. De cette vie qui renaît à travers l'Esprit de Dieu, qui est animé en nous. Afin qu'on puisse comprendre quelle est la force du royaume de Dieu. Comment on le fait pour appartenir à Dieu. Et Jésus va l'illustrer dans le verset 8. Le vent, on connaît tous le vent. Lorsqu'on est dehors et qu'on sent le vent, on le sent sur nos joues, sur nos cheveux, on le voit peut-être à travers aussi les feuilles qui bougent, mais on ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas d'où il va. Jésus va lui dire que c'est le mystère du vent, mais on sait qu'il est là. Alors, comme la foi, il veut démontrer à Nicodème que ce n'est pas par la raison humaine que tu vas comprendre comment renaître, mais c'est à travers la foi, à travers de croire sans forcément voir, croire sans forcément tout comprendre à la façon humaine. Mais de croire, dire, oui, je crois que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité le troisième jour, qu'il nous donne la vie, et qu'à travers la repentance, à travers le fait de pouvoir dire au Seigneur, oui, je me repens et je confesse mes péchés pour venir vers toi, je crois que Dieu m'a racheté, je crois que Jésus-Christ a lavé, a purifié mes péchés pour vivre une nouvelle vie. Cette démarche de naître de nouveau, chacun de nous, nous l'avons fait un jour, ou nous allons la faire, on a besoin de la faire. Et voilà pourquoi que peut-être encore aujourd'hui, même si ça fait peut-être 5 ans, 15 ans, 20 ans que nous avons fait ce pas, justement de renaître à travers Jésus-Christ, on a besoin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire aussi pour nous aujourd'hui. Et si vous allez un peu plus loin dans le verset, dans le chapitre 3, vous voyez le verset 16, que nous connaissons tous, qui dit « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Jésus va dire à Nicodème qu'il a besoin d'être réconcilié avec Dieu à travers le sacrifice d'un seul homme qui est Jésus-Christ et qui va lui donner la vie à nous qui étions pécheurs. Donc, on sait que Jésus est venu pour réconcilier, nous réconcilier avec Dieu, notre Créateur. À cause du péché de notre vie, on a été comme séparés. Et Jésus-Christ, par son sacrifice, est venu nous réconcilier avec notre Père céleste, afin que nous puissions goûter à ce royaume de Dieu, de pouvoir se goûter d'être un jour pour l'éternité avec lui. Donc voilà la base de notre croyance. Et c'est la foi que nous avons en Jésus-Christ qui nous permet d'avoir cette vie nouvelle. Et même plus tard, justement, plus tard, après notre mort, d'être aussi élevé avec les autres frères et sœurs qui auront cru et qui auront fait la volonté de Dieu. Alors, prochain diable. Alors, peut-être qu'on connaît tout ça ce matin, puis vous pouvez nous dire, mais pasteur, je suis au courant de tout cela. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ou qu'est-ce qu'on a besoin de redécouvrir? Il faudrait vraiment voir où nous en sommes dans notre vie et notre relation avec Jésus-Christ. Donc, on risque, comme Nicodème, qui avait une compréhension humaine de Dieu et qui essaie de plaire à Dieu en faisant toutes sortes de rituels. Il savait comment pouvoir louer ou honorer Dieu. Il faisait toutes sortes de choses avec les pharisiens, avec les autres personnes de la religion juive. Mais il avait besoin réellement de pouvoir goûter que Dieu n'était pas simplement dans la tête, pas simplement en faisant des rituels, faisant certaines choses, mais de pouvoir vraiment le vivre dans notre cœur, que notre vie soit réellement transformée. Voilà pourquoi que Jésus va nous dire, il faut que tu renaisses, il faut que tu redécouvres réellement qui est Dieu. Notre vie aussi, en tant que chrétien, on peut facilement aussi tomber dans une certaine routine, dans une certaine façon de dire, oui, merci Seigneur parce que tu es mort sur la croix pour nous, merci Seigneur parce que tu nous donnes ta grâce, ta force. Et on oublie réellement qui est Dieu, et de pouvoir vivre jour après jour cette réconciliation, et de pouvoir aussi être ce témoignage de cette réconciliation que Dieu nous offre. Alors la reprise, la rentrée en ce moment, ne doit pas simplement de reprendre tout ce que nous avons laissé de côté peut-être durant l'été, mais de se poser la question, est-ce que je suis avec Jésus par obligation ou par routine? Ou est-ce que je vis réellement une vie passionnée pour Jésus? Est-ce que je désire dans cette nouvelle période de pouvoir vivre avec un nouveau élan avec Jésus-Christ, d'avoir un nouveau cœur pour Dieu et pour les autres? Et ce matin, j'aimerais vous proposer un seul point, un seul objectif que nous allons peut-être mettre en avant. Vous allez voir que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais un point qui est très important pour chacun de nous. Le point ou l'objectif, c'est ralentir notre vie. Ralentir notre vie. Ce n'est pas quelque chose d'habituel dans notre société nord-américaine, où justement tout va très vite. On est rapidement submergé par tout ce que nous allons faire. Et je sais que justement, autant les parents, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'excitation avec la rentrée, il y a tellement de choses à préparer pour les enfants et pour les autres choses. Mais ralentir notre vie, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? En lisant justement ce livre, « Comment devenir un leader émotionnellement sain », j'ai réalisé ce que voulait le dire l'auteur de ralentir dans notre vie. Il disait simplement, ralentis ta vie pour ne pas être simplement comme la société le demande. On n'est pas obligé de faire la même chose que la société nous pousse à faire. Il nous donnait des exemples, même dans le milieu chrétien. Il donnait un exemple que justement, il connaissait une femme pasteur en Chine qui était pasteur d'une église de plus de 5000 personnes. Elle lui disait, je n'ai pas le temps de m'arrêter. Mon téléphone, là, mon cellulaire, il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que si quelqu'un dans l'église a besoin de moi, il faut que je puisse lui répondre. Je ne prends jamais de vacances parce que les gens ont besoin de moi. Mais elle disait, je suis fatigué. J'ai plus de force, tellement que j'en prends pour le ministère. Il prenait un autre exemple d'un autre pasteur aux États-Unis aussi, qui était pasteur d'une église de plus de 300 personnes, qui prenait des vacances juste du lundi au vendredi, parce que du samedi au dimanche, il fallait qu'il se prépare pour prêcher. Dans son église, il n'avait pas d'autres personnes qui pouvaient être capables de prêcher. Donc, il prenait des vacances juste pour quelques jours. Mais durant la semaine, il continuait à réfléchir à tout ce qu'il allait dire le dimanche. Il n'était pas réellement en vacances. Il était trop occupé à continuer l'œuvre du Seigneur. Et ces personnes ont dit, mais c'est normal, je suis dans l'œuvre du Seigneur. Dieu me donne la force de continuer, je dois le faire. Alors pourquoi ralentir aussi en tant que leader? Pourquoi ralentir en tant que chrétien? Pourquoi même ralentir en tant que pasteur? Le défi de notre société actuelle s'encourt après toutes sortes de choses. Et ça joue notre morale, ça joue notre physique, sur notre vie personnelle, sur notre vie aussi familiale. C'est difficile si on est occupé plus de 20 heures par jour à faire toutes sortes de choses, d'être capable de voir où nous en sommes dans notre vie personnelle, dans notre relation avec notre mari, notre femme, avec nos enfants. Durant le confinement, vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans les familles? Les spécialistes ont pu le voir et on a pu le voir ici au Canada. Ils ont remarqué que durant le confinement, il y avait plus de violence dans les familles. Pourquoi? Parce que les gens étaient comme bloqués ensemble 24 heures sur 24. Le mari ne pouvait pas peut-être dire « Oh, mais là, je sors de la maison pendant 8 heures, 10 heures de travail, même 15 heures plus parce que je ne veux pas rentrer à la maison parce que j'ai des problèmes avec ma femme, avec mes enfants. » Ils étaient obligés de rester ensemble. Il y a eu beaucoup de tensions dans les familles. Il y a eu des fois aussi, heureusement, dans les familles, une redécouverte, justement, de ce que ça voulait dire d'être une famille, d'être en lien les uns avec les autres. Mais le problème, c'est qu'on va tellement vite, on ne veut pas régler ces choses. On a un problème avec notre mari, notre femme, nos enfants qui ne vont pas très bien, les tensions. On ne veut pas les régler. Le monde est trop vite, on verra ça une prochaine fois. La prochaine fois, elle ne vient jamais. Donc, ralentir notre vie, c'est de prendre le temps de vivre, pas forcément en s'arrêtant de travailler, de rien faire et de paresseux. C'est pas cela qu'on dit ralentir notre vie. Mais ralentir notre vie, c'est de prendre du temps pour soi et pour Dieu. Non pas dans le sens de faire plus de loisirs ou de sport ou de détente, mais prendre du temps de qualité, de se bâtir en tant que personne, de changer, de renouveler notre relation avec notre Dieu. Une phrase qui m'a frappé, que j'ai vue aussi sur l'écran, qui dit « Sommes-nous des chrétiens qui agissent pour Dieu sans avoir une vie avec Dieu? » Sommes-nous des chrétiens qui agissent pour Dieu sans avoir une vie avec Dieu? Souvent, on peut le faire. On fait beaucoup de choses pour Dieu, mais on ne le fait pas avec Dieu. Souvent, on dit « Seigneur, je fais ces choses parce que tu me demandes de faire. » Le Seigneur dit « Non, je ne t'ai pas dit de travailler 20 heures par semaine, puis de ne pas prendre du temps pour toi. » Non, même si dans le ministère. Moi-même, je l'ai fait aussi à un moment donné, dans ma propre vie, dans mon propre ministère, où je prenais beaucoup de temps, parce que je me disais, Seigneur, le temps est court. On sait qu'il va revenir bientôt. Donc, il y a tellement de travail, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de gens à sauver, à changer, à transformer, qu'on n'a pas le temps de se reposer. On n'a pas le temps de prendre du temps avec ta famille, avec moi-même, avec les autres. J'ai réalisé qu'on se fatigue. Et quand on me dit que lorsqu'on est fatigué mentalement, spirituellement, psychologiquement, on n'est pas capable de donner aux autres. Prochain diable. Ralentir pour permettre de prendre le temps de voir qui est Dieu dans notre vie et autour de nous. Comme par exemple, admirer un merveilleux paysage ou louer Dieu pour ses merveilles. L'autre jour, on était dans une activité avec Nicole. En revenant à la maison, on voit que le coucher du soleil arrive. Et on s'est dit, on va s'arrêter dans un endroit là au bord de l'eau. Et on a regardé simplement le coucher du soleil. C'est merveilleux de voir les couleurs, de voir les beautés du paysage. Et quand on regardait ça, on ne pouvait que remercier Dieu. On dit, Seigneur, merci pour ta création, merci pour tes bontés. Merci parce que jour après jour, le soleil se lève, il nous donne la vie, le soleil se couche, mais même pendant la nuit, tu es là avec nous. Ralentir afin d'avoir du temps pour soi, pour faire quelque chose que l'on aime et qui va nous permettre d'expérimenter Dieu pour une nouvelle manière aussi de le louer. De ralentir pour prendre plus de temps avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants, afin de nous construire en tant que famille. Et voilà pourquoi que j'insiste beaucoup auprès des jeunes familles de prendre du temps quand les enfants sont encore là. Parce que lorsqu'ils ont 20 ans, ils vont plus partir de la maison. Et peut-être ce sera trop tard. Combien de fois j'ai entendu des parents dire « J'ai manqué de prendre du temps. Ah oui, il y avait tellement de choses à faire, tellement de travail, il fallait gagner de l'argent pour faire quelque chose. Je n'ai pas pris du temps avec mes enfants. Maintenant qu'ils sont loin, je les vois très, très rarement. » Ça peut arriver que même, souvent je le dis aux blagues à mes filles, j'espère que tout ce que j'ai fait pour vous, que lorsque j'aurai 70 ans, vous allez vous occuper de vous, de moi aussi. Hein? Même quand je serai peut-être encore en train de marcher avec une béquille ou avec une canne, ou peut-être dans le lit pour ne plus bouger, j'espère que vous allez vous occuper de moi. Tellement de fois qu'aujourd'hui, on le voit dans une société. On met les personnes âgées dans des maisons, et certaines fois, on va les visiter juste une, deux fois par année parce que pour être bien. Mais ces personnes qui ont mis peut-être ces personnes âgées, les enfants qui ont mis ces personnes âgées dans des maisons, peut-être qu'ils n'ont pas vécu de relation vraiment intime avec leurs parents, qui disent, mais pourquoi que moi, je prendrais du temps pour eux? J'ai tellement de choses à faire. Je vais les mettre dans une maison, puis ils vont s'occuper d'eux, et moi, je vais les voir de temps en temps. Est-ce que le Seigneur veut que nous travaillions 60-70 heures par semaine, que nous n'avons plus de temps pour notre famille, de faire quelque chose que nous aimons, plus le temps d'être avec nos frères et sœurs de l'Église? Oui, c'est vrai que c'est difficile dans les défis que nous vivons actuellement, même aussi dans ce temps de pandémie, parce qu'on voit qu'il y a la pénurie de main-d'œuvre, qu'on nous pose surtout dans la santé, dans différentes tâches, à faire des heures supplémentaires. Mais on ne peut pas faire ça toute notre vie. L'idée ce matin que j'aimerais vous laisser, et que j'ai expérimenté moi-même durant des années, et qui a mis justement moi-même aussi ma vie personnelle et ma vie familiale aussi en péril, c'est justement d'en faire trop, et même pour Dieu. De dire, j'en fais beaucoup pour Dieu, mais je ne le fais pas avec Dieu. Notre relation avec Dieu doit se faire spirituellement, c'est vrai, une relation. On doit parler à Dieu, on doit l'écouter. Mais lorsqu'on a une relation qui est vraiment dynamique, passionnée avec le Christ, ça va avoir un côté aussi, un impact, du côté physique, émotionnel. Si en tant que personne, je ne suis pas bien physiquement ou même émotionnellement, pensez-vous que je peux avoir un impact auprès de ma femme, de mon mari, de mes enfants? Si en tant que chrétien, justement, je ne suis pas bien physiquement, je suis trop fatigué, je vis des choses difficiles, est-ce que ça ne va pas affecter ma vie spirituelle, de ma relation avec Jésus? Et on le voit tellement autour de nous. Comment que justement, des hommes et des femmes ont laissé la relation avec Dieu petit à petit se passer, se vivre une certaine routine, et à un moment donné, ils se sentent mal, ils n'arrivent pas à définir qu'est-ce qui se passe. Et leur relation avec Dieu est comme ternie, comme fade. Regardez justement l'image que nous avons sur l'écran, en gratte-ciel. En gratte-ciel, si vous regardez bien, on ne peut pas simplement construire même 100 mètres, 200 mètres ou même plus haut des gratte-ciel sans avoir vraiment une base solide. On dit que justement, on va mettre des pieux vraiment jusqu'à des profondeurs, des dizaines de mètres de profondeur pour vraiment ancrer solidement le gratte-ciel pour que lorsqu'il va y avoir le vent, lorsqu'il va y avoir les tempêtes, il ne s'effondre pas. L'image de ce gratte-ciel, c'est que notre vie extérieure, on la voit, elle peut être jolie, comme un beau gratte-ciel. Mais si notre vie intérieure, qui est sous terre, on ne voit pas, qui est propre à nous, qui n'est pas solide en Christ, alors on risque peut-être que notre gratte-ciel risque de, notre vie risque un peu de s'effondrer, de basculer. Alors, un des moyens que nous avons, c'est de voir si nous sommes dans le bon rythme avec Dieu, c'est de voir si nous sommes dans la paix et dans la joie dans tous les aspects de notre vie. C'est vrai qu'on peut vivre des temps d'épreuves, de souffrances qui sont difficiles, mais Dieu nous guide même dans ces temps-là, il va te donner la paix, il va te donner une joie, au-delà même de ta souffrance ou de ton épreuve. Alors, prochain diable, alors est-ce que c'est possible durant cet automne, durant cette rentrée, de redécouvrir Jésus, dans ce que nous avons peut-être perdu avec le temps, de redécouvrir Jésus d'une nouvelle façon, de redécouvrir tout l'amour qu'il a pour nous, tout ce qu'il a fait pour nous. Est-ce que c'est possible de redécouvrir Jésus dans l'appel qui demande d'être un véritable enfant de Dieu, d'aller chercher ce que nous avons perdu peut-être avec le temps? Est-ce que c'est possible de ne pas vivre selon les standards de ces sociétés, dans le stress qui nous enveloppe et qui nous détruit, de trouver un bon équilibre dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle et principalement dans notre vie avec le Seigneur. Apocalypse chapitre 3, verset 20, un verset que nous connaissons. « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » On prend toujours ce texte, souvent ce texte pour parler justement à des nouveaux convertis, pour dire justement « Jésus se tient devant la porte ». Mais si vous lisez le contexte de ce texte, vous voyez que c'est dans, justement dans les lettres que l'Esprit de Dieu donne aux églises. Donc, il parle à des chrétiens, il parle à des gens qui sont déjà dans l'église. Et il leur dit, vous les chrétiens, je me tiens devant la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, j'en dînerai avec lui et lui avec moi. C'est comme si, dans la vie de cette église, les chrétiens avaient laissé Jésus derrière la porte. Ils avaient entendu, ils avaient cru en Jésus-Christ, ils avaient commencé une vie avec Jésus. Mais ensuite, petit à petit, ils ont laissé Dieu ou Jésus-Christ de côté. Et là, Jésus-Christ est en train de frapper la porte, dire, hey, laisse-moi entrer, j'aimerais passer du temps avec toi, j'aimerais passer du temps de qualité, j'aimerais vivre une nouvelle communion avec toi, j'aimerais entendre ce qui se passe dans ta vie, j'aimerais te parler vraiment cœur à cœur. Voilà pourquoi qu'il est temps, il est bon de prendre du temps avec le Seigneur. On ne peut pas dire, Seigneur, oui, peut-être dans quelques mois ou dans quelques années. Souvent, des fois, je dis à ma femme, quand elle me demande quelque chose, je n'ai pas le temps de le faire maintenant, mais un peu plus tard. On dit souvent ça, hein? On n'a pas le temps, on va le faire plus tard. Mais souvent, on dit avec Dieu la même chose. Dieu, je n'ai pas le temps, mais non, il faut que je parte. Il faut que j'aille dans le travail, il faut que je fasse quelque chose. Mais le Seigneur dirait, waouh, reste tranquille. Reste, prends du temps. Prends du temps, pas simplement juste le matin, en prière, puis le soir, mais peut-être à midi aussi. Voilà pourquoi on prie aussi à chaque semaine, pendant une heure de temps. Parce qu'on veut prendre le temps de prier, on veut prendre le temps d'écouter sa parole pour pouvoir ralentir. On peut prendre le temps avec un frère et sœur, avec nos enfants peut-être pour lire la parole en fin de journée, avec nos frères et sœurs pour nous téléphoner, pour prier avec elles, pour simplement discuter, pour partager peut-être ce que nous vivons, partager un texte de la Bible. Souvent, et moi j'ai même expérimenté cela, lorsqu'on prend du temps pour Dieu, pour dire, OK, Seigneur, peut-être je vais prendre une heure de moins de travail, mais je vais prendre pour toi. J'avais toujours un peu l'occasion de dire, oh, mais si je prends trop de temps pour Dieu, je ne vais pas être capable de faire tout mon agenda ou tout le programme que j'ai prévu. Mais ma grande surprise, c'est quand je prenais du temps avec Dieu, réellement, dans la foi, dans l'écoute, les choses se faisaient tout seules. Dieu peut-être mettait une autre personne pour faire le travail, ou Dieu faisait par un miracle quelque chose qui se passait. Dieu ne veut pas nous dire, ben, prends du temps avec moi, mais après, pour que tu rattrapes le temps que tu dois faire au travail ou dans la famille. Non. Si tu prends du temps de qualité avec moi, ton corps va être régénéré, ton esprit va être libéré, tu vas vivre quelque chose de merveilleux, de grand. Alors, à ce moment-là, tu vas aussi avoir une meilleure relation avec ton mari et ta femme. Tu vas pouvoir aussi vivre des choses merveilleuses avec les enfants, ils vont le reconnaître, ils vont le saisir. Alors, ce n'est pas une perte de temps. Prenons le temps. Ralentissons durant peut-être cet automne. Essayons de le faire, de prendre peut-être une heure de temps en temps, peut-être deux, trois fois par semaine, de prendre une heure pour toi, de te promener, d'aller peut-être dans la nature, d'aller dans ta chambre, de fermer ta chambre, enlever les cellulaires, l'ordinateur, et dire, Seigneur, je veux être simplement devant toi. Je veux prier, je veux t'écouter, je veux simplement te contempler. Vous allez voir comment que vous allez vivre une vie nouvelle avec le Seigneur. Alors, ouvrons notre tête. Et réfléchissons. C'est vrai que ça peut être un bon enseignement, ça peut être des bons encouragements, des bons principes. Mais si on ne l'applique pas dans notre vie, si on nous dit, ben là, je n'ai pas le temps, là. Je le ferai quand, un peu plus tard, mais là, j'ai tellement de choses à régler, j'ai tellement de choses dans ma tête, on risque de ne pas le faire. L'auteur du livre disait que ces principes qu'il a développés, ça lui a pris des années. Entre 5 et 7 ans réellement avant qu'il puisse réellement comprendre ses idées. Il a fait un effort petit à petit, il ne s'est pas découragé, il n'a pas essayé de dire, OK, je prends trop de temps, là je prends, maintenant je veux consacrer au moins, c'est une nouvelle initiative, de 2-3 heures par jour de plus pour Dieu. Non, il a pris de plus en plus, petit à petit, et il a vu l'importance, il a vu comment que ça a eu un impact dans sa vie, dans son ministère, dans sa vie de familiale aussi. Dieu nous demande de ne pas tout lâcher. Dieu nous demande simplement de prendre le temps avec lui. Ralentis pour vivre une nouvelle vie avec le Seigneur. Ralentis pour vivre une vie passionnée avec Christ. Ne suis pas les principes de ce monde. Ne reste pas dans le stress, dans l'angoisse d'être capable de tout faire, dans la fatigue parce qu'on a tellement de choses à faire que on n'est plus capable de se reposer, de prendre du temps pour nous, de prendre du temps pour nos familles, pour nos frères et sœurs autour de nous. Le Seigneur nous invite, durant cette reprise de cette rentrée, de dire, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui de différent d'avant? Est-ce que tu voudrais découvrir une véritable relation avec moi? Est-ce que tu veux ralentir pour pouvoir vivre une vie avec ta famille, de prendre du temps de qualité avec tes enfants, de prendre des temps aussi de qualité avec tes frères et sœurs? Même si la société nous pousse, et l'ennemi arrive très bien. L'ennemi arrive très bien de nous surcharger de toutes sortes de choses. Et on a besoin de dire, Seigneur, avant tout, premièrement, c'est avec toi que je veux être. Si j'ai une bonne relation avec toi, si je vis une vie équilibrée avec toi, ça va m'aider pour la suite de ma vie, ça va m'aider pour ma vie personnelle, ma vie avec les autres. Et en laissant le Saint-Esprit nous parler quelques instants pour que nous puissions réfléchir ce que veut dire ralentir notre vie pour nous. Seigneur, on veut te remercier aujourd'hui pour tes grandes grâces que tu nous donnes. Pour ce rappel, Seigneur, aujourd'hui, de ce que tu fais pour nous. Seigneur, nous avons besoin de voir que dans notre vie, on a besoin souvent, des fois, de ralentir. Afin de pouvoir comprendre, saisir quel est le but, quel est l'objectif que tu nous donnes sur cette terre. Afin que, Seigneur, nous puissions prendre le temps avec toi. Prendre du temps de qualité, prendre du temps qui va nous changer, qui va nous rendre meilleurs pour toi. Seigneur, nous savons que ce temps n'est pas pris en vain. Ce n'est pas une perte de temps, le temps que nous sommes avec toi. Le temps que nous méditons ta parole, le temps que nous prions, le temps que nous écoutons qui tu es, ce que tu veux pour nous. Alors aide-nous durant ces prochains jours, des prochaines semaines, et réaliser que tu veux t'adresser à nous. Avant que nous puissions reprendre toutes nos activités et commencer un flot de choses, de pouvoir dire, je frappe à la porte et je veux entrer avec chez toi. Je prends le temps de dîner, je prends le temps de souper, je prends le temps de passer du temps avec toi, du temps de qualité, pour qu'on puisse se parler, pour que je puisse entendre ce que tu veux me dire. Alors oui, Seigneur, on veut ouvrir notre porte et on veut prendre ce temps avec toi. Permets que, Seigneur, tu puisses nous faire discerner dans ces prochains temps, Seigneur, ce qui est bon pour nous, ce que peut-être on a peut-être besoin de laisser de côté, peut-être toutes les heures que peut-être nous passons sur Internet, à la télévision ou d'autres choses, pouvoir prendre des temps avec toi de qualité, prendre des temps avec nos frères et sœurs pour pouvoir l'encourager. Alors merci Seigneur parce que nous savons que ton esprit en nous va nous montrer, va nous indiquer ce que nous devons être. Et nous voulons continuer Seigneur de rester fixés, les yeux fixés sur toi, afin que nous puissions comprendre, saisir ce que tu veux nous dire. Nous voulons t'adorer, te louer toi seul pour tout ce que tu as fait. Toi, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, tu es venu sur terre. Toi qui avais la royauté, tu as accepté de venir sur cette terre pour mourir à notre place, pour nous donner notre vie, pour nous permettre de pouvoir être sauvés, rachetés à si grand prix. Aide-nous à réaliser tout ce que tu as fait. Aide-nous à réaliser que tu veux encore une relation renouvelée, que nous voulons, que tu veux, Seigneur, que nous puissions redécouvrir qui es-tu réellement et que nous puissions t'adorer avec un cœur juste. Alors merci, merci pour ce temps, merci pour cette célébration. On a pu vraiment t'adorer, te louer. On a pu voir ce que tu veux nous dire. Permets que, Seigneur, maintenant que nous allons bientôt nous quitter, que nous puissions être vraiment ancrés en toi, que nous puissions continuer, Seigneur, de garder les yeux fixés sur toi, de marcher avec toi dans la vérité et que nous puissions faire des œuvres pour toi qui vont te glorifier, non pas parce qu'il faut faire des œuvres, mais parce qu'elles sont le fruit, le résultat de ce que nous avons à l'intérieur de notre cœur, c'est-à-dire une vie ancrée en toi, une vie passionnée en toi. Alors, merci Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur, dans la suite de cette journée, dans cette semaine, et que nous puissions continuer de reconnaître que tu es grand, que tu es puissant, et que tu fais de grandes choses à travers chacun de nous. Nous te prions ça dans ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen.